Chapitre 13. L'abbé Rivord, lors de la première visite de son cousin, n'avait pu lui parler seul à seul. Il comptait le revoir peu après, mais les jours s'écoulèrent sans ramener Bruno au presbytère. L'abbé se rendit à la Hermelière. Florian était là et resta constamment entière. Bruno répondit par une explication vague, embarrassée, à son cousin qui lui demandait pourquoi on ne le voyait plus. Le prêtre comprit. Quand il sortit de la Hermelière, l'angoisse le serrait au cœur. Ce qu'il avait tant redouté dans ce mariage se réalisait, et beaucoup plus vite qu'il l'eût cru. Il fallait voir Bruno seul. Chez ses parents, à Varlaumont, n'importe où, il ne venait jamais sans sa femme. Le curé l'ayant invité à dîner, il répondit par un refus en alléguant la santé de Florian. Alors l'abbé Rivord lui écrivit en lui demandant de venir lui parler. Il vit arriver le lendemain, un peu froid, un peu gêné. Après quelques mots échangés, le prêtre dit « Notre bon curé a bien regretté que tu n'aies pas pu venir. » « J'ai regretté aussi, mais Floriane se sentait nerveuse, inquiète. Elle m'a demandé de ne pas la quitter. Mon devoir était de rester. » L'abbé murmura « Oui, ton devoir. » Dans la grande chambre sombre, l'air trempé de pluie entrait avec le jour sans lumière. Les meubles luisaient dans l'ombre. Sur la table, une serviette de chagrin, usée, ouverte, laissait échapper des papiers. Le prêtre les désigna à Bruno. Nous sommes en arrangement avec Henri de Marge pour sa maison de la rue d'Angers. Il nous la loue, à un prix infime d'ailleurs, pour notre patronage qu'il faut agrandir. Vraiment, tes jeunes gens sont plus nombreux, alors ? L'abbé eut une imperceptible tressaillement. Le ton indifférent de Bruno, sa physionomie distraite, laissait voir clairement que l'intérêt n'existait plus chez lui pour cette œuvre qu'il avait aimée. « Oui, nous sommes en progrès. J'ai eu bien des consolations avec le petit Arnaud. » L'abbé parla de ses enfants, de ces jeunes gens que connaissait son cousin, dont il s'était occupé assidûment, avec un zèle enthousiaste. Bruno l'écoutait du même air indifférent, un peu absent, en murmurant de vagues. « Ah, vraiment ? C'est très bien. Oui, je me souviens. » Le prêtre cessa tout à coup de parler, regarda un instant son cousin dans les yeux et dit « Toutes ces choses ne t'intéressent plus. » Bruno rougit. « C'est un peu vrai, mon ami. Tu comprends, j'ai d'autres devoirs, d'autres préoccupations. Quand on a été comme toi une âme zélée, une âme fervente, on ne se désintéresse pas ainsi des âmes que l'on a aimées et dirigées, par lesquels on a souffert les premières désillusions et connu les premières joies de l'apostolat. L'apostolat, je n'étais pas fait pour lui, je me trompais. » L'abbé eut un lent hochement de tête. Il se tut un instant. Le bruit sourd du balancier de l'horloge ancienne s'entendait seul dans le silence. Puis une mouche bourdonna et vint frôler la chevelure de Bruno. « Et celui auquel tu devais t'adonner ?» « La conversion de ta femme ?» demanda le prêtre. « Oh, celui-là, c'est autre chose. J'y songe toujours, crois-le bien. » « Tu y songes, sans avancer d'un pas, au contraire. »« Que veux-tu dire ? C'est toi qui recules, toi qui descends. Florian est resté tel que tu l'as épousé. Toi, tu as changé. »« Tu rêves !» dit Bruno avec un peu d'irritation. « Florian n'a pas encore la foi, en effet, mais ce n'est pas à moi de t'apprendre quelle prudence exige un travail de conversion. Je lui parle très peu à ce sujet, j'aime mieux laisser le temps et la réflexion agir en elle. » Il se leva, fit quelques pas vers la fenêtre et se détourna en demandant d'un ton un peu sec « Est-ce pour me dire cela que tu m'as fait venir ? Cela est autre chose. » Se levant à son tour, l'abbé vint à Bruno. Il vit se fixer sur lui un regard assombri qu'il ne connaissait pas jusqu'ici. « Peux-tu m'assurer, en toute sincérité, que ta vie chrétienne n'a subi aucune atteinte ?» Bruno eut un mouvement d'épaule en répondant avec froideur. « J'ai conservé ma foi tout entière, j'accomplis ce qui est d'obligation stricte. Quant au reste, j'ai cru sage d'y renoncer pour le moment afin de ménager les idées de Florian que trop de dévotion risquerait d'effaroucher. Le reste, c'est-à-dire ce qui soutenait ta faiblesse. Pauvre enfant !» La voix de l'abbé tremblait. Quelque chose se détendit sur la physionomie de Bruno. Il prit la main de son cousin et l'étreignit avec force. « Jacques, que vas-tu imaginer? Mon âme n'est pas en danger. Je ne puis te dire que je possède toute la ferveur d'avant mon mariage. Non, ce n'est plus la même chose, mais je reste un chrétien pratiquant. » « Jusqu'à quand ?»« Mais toujours. Voyons, Jacques, que te prend-il? Tu es prévenu contre Floriane, je le sais, tu te figures que je vais perdre mon âme près d'elle. C'est une folie, c'est une injure que tu lui fais. » « Mon cher enfant, laisse-moi te demander simplement ceci. Ne sens-tu pas un trouble dans ta vie morale? N'as-tu pas conscience que tu admets, en toi et autour de toi, ce que tu aurais réprouvé il y a peu de temps encore ?» Il y eut un assez long silence. Bruno serrait les lèvres en détournant son regard hésitant. « Que prouverait cela ? » dit-il enfin. « Que j'étais un scrupuleux et que je ne le suis plus, voilà tout. » « Un scrupuleux ? » répéta l'abbé. Un léger sursaut le secoua. Sa physionomie témoignait d'une stupéfaction douloureuse. « Un scrupuleux, parce que tu t'éloignais de tout ce qui attaquait la morale et que tu veillais sur ton âme pour la préserver du mal ?» Ah, mon pauvre enfant, quelle parole tu viens de prononcer là !» Une émotion subite bouleversa la physionomie de Bruno. Il se pencha vers son cousin en posant son bras sur son épaule dans l'attitude qui lui était familière lorsqu'il était enfant et voulait demander un conseil à Jacques, son aîné. « Mon ami, mon cher Jacques, je ne veux pas que tu croies !» Je conserve tous mes bons principes, je suis toujours le même que naguère, mais je ne puis vivre en anachorète. Ce n'est pas une raison pour que j'approuve ce qui est mauvais. Je t'en prie, ne conserve pas de pareilles idées, Jacques, et ne pense pas mal de Floriane, tu me ferais beaucoup de peine. » Mon pauvre enfant, redit l'abbé. Son regard affectueux, d'où l'angoisse ne s'effaçait pas, considérait le jeune visage tout proche du sien, les yeux si beaux que l'émotion faisait briller et dans lesquels, comme Madame Ferrière, il cherchait vainement un reflet de l'expression d'autrefois. Mademoiselle Célestine appela du dehors. « Monsieur l'abbé, on vient vous demander pour le père Rollin. » « Bien, mademoiselle, j'y vais. » Et le prêtre ajouta, en s'adressant à Bruno, « C'est le vieillard que tu allais voir comme visiteur de la conférence. Tu te souviens ?»« Mais oui, crois-tu donc que j'ai oublié tout cela ?»« Il est malade. » »« Mourant, je vais l'administrer. Il me parle toujours de toi et me demande s'il ne te verra pas. » »« Pauvre vieux, c'était un brave homme, surtout depuis que je l'avais persuadé de ne plus boire. J'irai demain matin, Jacques, tu peux le lui annoncer. » « Ce soir, c'est impossible, car Floriane m'attend pour faire une promenade avant le dîner. »« Tu le trouveras encore en vie demain, très probablement. Ta visite sera une dernière joie pour lui. Et la joie des autres, vois-tu, cela vaut encore mieux que la nôtre. » L'abbé s'interrompit un instant, puis demanda « Tu reviendras me voir ?»« Mais oui, dès que je le pourrai. Floriane est un peu exigeante. » « Je ne puis m'en plaindre, puisque c'est par affection pour moi. » L'abbé, sans mot dire, prit son chapeau et se dirigea vers la porte. Arrivé là, il posa la main sur le bouton et se détourna pour regarder son cousin qui l'avait suivi. « Es-tu heureux d'être bientôt père ?»« Très heureux, naturellement. En outre, je dois t'avouer que je compte beaucoup sur ce petit être pour incliner davantage Floriane vers nos croyances. » « Certainement, ce sera un bienfait pour elle et pour toi. En devenant mère, elle ne sera plus occupée exclusivement de son mari et tu te trouveras plus libre, plus toi-même. » Bruno eut un mouvement d'amour-propre froissé. « Je ne sais vraiment ce que tu t'imagines. Aucune femme, mieux que Floriane, ne sait respecter la liberté de son mari. Si je cède à ses désirs, c'est parce qu'il me plaît de le faire, c'est parce que je l'aime. » La venue de notre enfant ne changera rien à cela. Ma femme demeurera toujours ma première préoccupation, mon premier amour. C'est très louable, mais il y a tant de manières d'aimer. Je n'en connais qu'une, dit brièvement Bruno. L'abbé ouvrit la porte. Tous deux descendirent l'escalier sombre. Dans le vestibule, le curé causait avec un vieil infirme. Il s'interrompit et vint à Renaud. « Eh bien, mon petit, c'est comme cela que tu fais faux bond à ton vieux curé. C'est gentil. »« Monsieur le curé, j'étais désolé. Mais ma femme... » »« Oui, oui, je sais. Tu es un mari modèle et je t'en félicite. Mais enfin, il ne faut pas délaisser tes vieux amis, vois-tu, car c'est ce qu'il y a de meilleur dans certaines circonstances de la vie. Viens me voir un de ces jours, mon petit enfant. » « Je tâcherai, monsieur le curé. » Bruno serra la main tordue par les rhumatismes. Un peu d'émotion l'étreignait à la gorge. Il regarda le bon visage aux yeux doux et graves et dit très bas « Je vous aime bien toujours. Vous êtes mon meilleur ami. » Il sortit, suivi de l'abbé. Celui-ci prit congé de lui sur la place. « À un de ces jours, n'est-ce pas ?» Bruno répondit affirmativement et reprit le chemin de la Hermelière. Au passage, il saluait d'un geste machinal les visages de connaissance. Il se sentait las d'esprit, gêné, mécontent de lui-même et de son cousin. Des pensées engourdies, qui avaient toute l'apparence du remords, semblaient prêtes à renaître. Des émotions oubliées surgissaient. Les paroles de l'abbé, l'anxiété et le grave reproche qui s'exprimaient dans le regard ferme, si connu de lui, venaient de bouleverser son âme. Il songea « Jacques a peut-être raison pour certaines choses. Je cède trop facilement et je laisse un peu trop Floriane à elle-même au point de vue religieux. » En entrant dans le petit salon de la Hermelière, il trouva sa femme assise sur le canapé, travaillant à une broderie. Elle sourit en le voyant, et ses yeux, dans l'ombre où elle se trouvait, étincelèrent d'ironie douce. « Eh bien, tu as reçu ton sermon, mon pauvre chéri. Je vois cela à ta figure. Avais-je raison de te le prédire ?» Il vint s'asseoir près d'elle et baisa les doigts qu'elle lui tendait. « Un très excellent sermon, Floriane. »« Vraiment ? C'est-à-dire des choses très noires contre ta pauvre Florie. »« Oh, mon ami !» Elle secoua la tête, un léger pli de raillerie soulevait sa lèvre. D'un joli geste souple, elle mit son bras autour du cou de Bruno. « Tu crois que je ne sais pas ce qu'il en est? Parce que je suis une incroyante, je leur fais peur. Ils se figurent que je cherche à te détourner de leur religion. » « Non, Floriane, ils s'inquiètent seulement de voir que tu restes éloignée de cette religion qui n'est pas seulement la leur, mais la mienne, qui sera celle de notre enfant. » « Dis-moi, ma chère femme, ne me donneras-tu pas bientôt le bonheur de te voir penser comme moi, comme tous les miens ?» Elle secoua doucement la tête. « Non, c'est impossible. Il ne faut pas me demander cela, vois-tu, mon ami. Tu dois te contenter de ta Floriane telle qu'elle est. Ne te suffit-elle pas ainsi ?»« Tu sais bien qu'il est affreux pour moi de penser que nous pourrions être séparés plus tard, dans l'éternité. » Et même en ce monde, c'est une ombre entre nous, un point où nous ne nous rencontrons pas. » Elle appuya son front contre la joue de Bruno en murmurant « Qu'est-ce que cela? Nous nous aimons, voilà le principal. Nous deux, Bruno, nous deux, seuls sur la terre. » « Floriane, cela ne doit pas être. » « Cela est. Notre amour nous suffit. Je ne veux pas que personne vienne se mettre entre nous sous prétexte de religion. » « Personne n'en a l'idée, Florie. Je t'assure que Jacques m'a dit des choses très raisonnables. » Elle eut un léger rire moqueur. « Oh, je m'en doute. Cela se voit à ta physionomie, à ton attitude gênée. Tu voudrais, toi aussi, me sermonner. Tout à coup, parce que ton cousin a effrayé ton âme timorée, tu t'avises de trouver que je te fais oublier bien des choses, et en particulier le soin de ma conversion. Dis, n'est-ce pas vrai ?» « Un peu, oui. J'ai perdu de bonnes habitudes et nous ne parlons plus bien souvent de la question religieuse, ma chérie. »« Il n'en est pas besoin. Nous avons notre amour. J'avoue que tout est là pour moi. Et toi ?»« Oh, je ne puis dire cela, mon ami. Toi-même, il ne faut pas. C'est une offense à Dieu. Ma Floriane, es-tu donc encore si loin de lui ?» Il essayait de lire dans les yeux brillants qui s'attachaient à lui, qui le pénétraient d'une joie éblouie. « Je crois que oui. Tu vois, je suis franche. M'en garderas-tu rancune ?»« Rancune ? À toi ? Oh non ! Mais c'est une souffrance pour moi, Florian. J'espérais tant te ramener à Dieu. »
Mon pauvre ami, je suis désolée. Ainsi, toute ma tendresse ne te suffit pas ? »
Elle prononça ces mots d'une voix très basse qui tremblait. Des larmes vinrent à ses yeux et Bruno la sentit frissonner contre lui. D'un geste ardent, il la serra dans ses bras.
« Que dis-tu ? Que vas-tu penser là ? Toi, mon bonheur, toi, ma vie ?
Oh, dis encore cela ! Dis que je suis ta vie et que tu m'aimes plus que tout !»«
Oui, tu es ma vie et je t'aime !»«
Plus que tout ?»
Des larmes légères glissaient le long des joues, tremblaient au bord des cils. Bruno baisa longuement les yeux humides et dit sans hésiter
« Oui, plus que tout !»
Lorsque le dimanche suivant, Bruno et Florian vinrent dîner à la maison Ferrière, ils y trouvèrent l'abbé Rivord invité par sa tante. Le prêtre, après les premiers mots échangés, « Tu n'as donc pu aller voir le vieux Rollin ?» Bruno répondit avec un léger embarras qui ne put échapper à son cousin.
« Non, cela m'a été impossible. Quand est-il mort ?»
Dans la journée, il avait gardé sa connaissance entière et t'a attendu jusqu'au dernier moment, tout heureux, le pauvre, à l'idée de cette joie promise. Je l'ai entendu qui disait, un peu avant de mourir, « Il ne viendra pas, il m'a oublié. » Et il pleurait. Le visage de Bruno frémit légèrement.
« Je regrette vraiment, mais je n'ai pas pu. »
Sa voix n'était pas assurée, son regard se troublait un peu. Madame Ferrière, qui entrait au salon en revenant de donner un ordre à la cuisine, demanda, s'adressant à la fois à son fils et à Florian,
« Vous avez donc été ce matin à une messe matinale. Je vous ai en vain guetté à la sortie de celle de 10 heures. »
« En effet, nous n'y étions pas, maman. Florian ne se trouvait pas prête, je l'ai attendu, mais au moment de partir, nous nous sommes aperçus que, même en nous pressant, nous arriverions tout juste pour la sortie. »
« Comment, vous n'avez pas eu de messe ?»
Florian dit avec son calme gracieux.
« Non, ma mère, c'était impossible. Est-ce un très grave péché, mon cousin ?»
Elle s'adressait à l'abbé Rivord. Un sourire entr'ouvrait ses lèvres. Il fallait l'attention aiguisée du prêtre pour découvrir toute l'ironie triomphante contenue dans ses paroles et ce sourire. Il répondit avec une froide tranquillité «
Oui, lorsque l'abstention est volontaire, sans raison sérieuse. »
Oh, nous ne l'avons pas fait exprès. Nous causions, il a oublié l'heure, et moi aussi. Nous oublions toujours l'heure quand nous causons. »
Elle rit gaiement en regardant son mari. Un peu d'embarras se discernait sur la physionomie de Bruno. Il avait conscience de la surprise de tous devant cette négligence extraordinaire chez lui, tellement stricte auparavant pour ses pratiques religieuses, le plus strict de la famille même.
J'en ai été fort contrarié, mais il était impossible de réparer cela.
Le prêtre et la mère sentirent la gêne dans l'accent. Ils comprirent que Florian avait pris sa revanche sur l'abbé Rivord et que Bruno payait d'une nouvelle capitulation de conscience ses velléités de remords. 15 jours plus tard, les deux jeunes gens quittèrent la Hermelière. Ils allaient s'installer pour le reste de l'été sur une plage de Bretagne, le climat d'Anjou ne convenant pas à Florian, assurèrent-ils. Madame Ferrière ne put voir son fils seul qu'un court instant. Il se montra affectueux, mais sans rien de l'expansion d'autrefois, qui l'unissait si bien à l'âme de sa mère. Madame Ferrière lui dit, avec une grave tendresse,
« Je suis triste de te voir partir si tôt. Tu avais besoin de te retremper longuement dans l'atmosphère du pays natal. Paris t'a déjà changé, Bruno. »
Elle disait « Paris » et c'était un autre nom qui était sur ses lèvres. Bruno eut un geste de protestation.
« Mais non, maman, quelle idée !»
Elle secoua la tête en le regardant pensivement. Il sourit avec un peu de contrainte et se pencha pour l'embrasser. « Je suis toujours votre Bruno et je vous aime tant. » Elle mit son bras autour des épaules de son fils et l'attira tout contre elle.
« N'oublie jamais ce que je t'ai appris. Dieu doit être servi avant tout et aimé plus que tout. »
Elle le sentit tressaillir et vit se détourner son regard. Il répéta d'une voix changée « Plus que tout, oui, je sais. » Puis il se dégagea lentement et ajouta, sans regarder sa mère, « Ne vous inquiétez pas pour moi, maman, je suis très heureux. »